Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je reçois pour cette émission Éclairage Étienne Klein. Étienne Klein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien au CEA, vous dirigez actuellement le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Vous avez été également professeur de physique quantique, vous avez aussi enseigné la physique des particules. Et enfin, vous avez été professeur de philosophie des sciences, vous avez publié de nombreux ouvrages, vous avez reçu des prix de l'Institut de France, notamment un prix de l'Académie des sciences morales et politiques, un prix également de l'Académie des sciences. Et vous venez de publier un petit ouvrage qui est un ouvrage, à mon sens, capital, qui s'intitule « Galilée et les Indiens », un ouvrage paru dans la collection Café Voltaire, paru chez Flammarion. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes professeur de philosophie des sciences et c'est un ouvrage, quand on le lit, qui est un peu à la croisée à la fois de l'actualité, mais de la science et de la philosophie. Ce n'est pas, je crois, anodin que de le dire, puisque votre parcours, je crois, a été marqué à l'origine par un ouvrage, l'ouvrage de Bernard d'Espagna, À la recherche du réel. Avant tout, pour nos auditeurs, Étienne Klein, comment définir la philosophie des sciences et quel sens peut donner la philosophie à la science ?
Alors, la philosophie des sciences, c'est un domaine extrêmement vaste. On ne soupçonne pas, quand on est français, parce que nous avons été en France habitués à un certain nombre d'auteurs qui, en quelque sorte, monopolisent la parole philosophique sur les questions scientifiques. Mais quand on va à l'étranger, on s'aperçoit que c'est vraiment un domaine très, très riche. Moi, la philosophie des sciences qui m'intéresse, elle s'occupe plutôt de la physique et elle examine, parmi tous les résultats de la physique, ceux qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives. C'est une expression un peu compliquée que je vais expliquer, mais qu'on doit à deux des pères fondateurs de la physique quantique, justement, qui s'appellent London et Bauer, et qui, à la fin d'un article capital qu'ils ont écrit à la fin des années 30 sur le problème de la mesure en physique quantique, qui est un très vaste problème, ils disent voilà un résultat de physique qui vient contraindre, éclairer et peut-être même contredire certaines des réponses philosophiques que l'on peut apporter à une question philosophique. Donc leur idée, ce n'est pas de dire que la physique vient concurrencer la philosophie, mais qu'à propos de certaines questions philosophiques, la physique a des arguments à faire valoir. Par exemple, sur la question du temps, on voit bien que l'avènement de la théorie de la relativité d'Einstein ou bien la physique quantique à propos de la question du réel viennent dire des choses qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main, au motif que ça viendrait de la science et qu'on s'intéresse à des questions hautement philosophiques. Il y a là des contacts possibles qui, lorsqu'on les fait vivre, lorsqu'on les repère d'abord et ensuite qu'on essaie de les faire vivre, enrichissent la pensée des uns et des autres.
Alors nous allons revenir bien évidemment tout au long de cette émission sur cette question philosophique, mais j'engage la conversation tout de suite sur votre ouvrage. Dès les premières lignes, vous expliquez que la science est prise entre deux extrêmes en quelque sorte. Pour les uns, la science est synonyme de salut et pour les autres, elle est synonyme d'apocalypse. Comment se caractérise, comment qualifier, comment expliquer ces deux extrêmes ?
En fait, quand vous écoutez les informations et lorsqu'il est question de science, vous entendez ces deux polarités s'exprimer successivement. La science va nous sauver et la science nous conduit à l'apocalypse. Et donc ça veut dire que nous sommes dans une position qui, à l'égard de l'idée de progrès, se pose des questions. Le progrès est une notion qui s'est problématisée. Et on a quitté ce qu'on a appelé, ce que les historiens, les philosophes ont appelé la modernité, c'est-à-dire cette idée qui est née au siècle des Lumières, selon laquelle il y aurait une sorte de lien, de couplage entre la raison, la science, le progrès. Et on ajoutait même l'idée que, entre les différentes formes de progrès, il y aurait une sorte d'embrayage automatique, c'est-à-dire un progrès scientifique engendre un progrès technologique, qui lui-même engendre un progrès dans le domaine matériel, qui lui-même engendre un progrès moral, puis politique, etc. Or, le XXe siècle est passé par là, et on s'aperçoit que les embrayages en question ne sont pas aussi automatiques, que peut-être même ils n'existent pas du tout, et on est entré dans cette post-modernité, comme on dit, qui, tout en n'en remettant pas en cause complètement l'idée de progrès, essaie de montrer qu'il n'a pas tenu tous les engagements qu'on a tenus à son propos, et que donc on a tendance à mélanger la science, ses applications, la technoscience en général, dont on a l'impression que personne ne la pilote. Elle est couplée au marché, elle crée des dégâts sur l'environnement, elle invente toutes sortes de nouveaux risques que nous avons du mal à gérer. Et donc, on peut tenir un discours apocalyptique, disant la science, par le biais de la technologie, dégrade tellement l'environnement que c'est l'apocalypse qui nous attend. Et puis, au contraire, dire, bah, finalement, grâce à la technologie, on va pouvoir guérir certains des maux qui ont été provoqués par une technologie antérieure mal maîtrisée.
Alors, justement, sur cette notion d'apocalypse, vous écrivez, et d'ailleurs c'est le sens, en tous les cas, un des sens de votre ouvrage, du titre de votre ouvrage « Galilée et les Indiens ». Pourquoi les Indiens ? Vous écrivez que vous êtes resté pendant longtemps dans un sommeil dogmatique, je reprends l'expression que vous utilisiez.
Et pas de moi, elle est de Kant. Hein.
Et ce sommeil a été brisé un jour, mais brisé par un événement complètement insolite pour le coup. Que s'est-il passé ce fameux soir, ce fameux hiver 2005 ?
Alors quand je dis que j'étais dans un sommeil dogmatique, pour reprendre l'expression de Kant à propos de Hume, c'est pas tout à fait vrai. En fait, je donne des conférences à des publics très divers depuis de nombreuses années, et j'ai vite ressenti le fait que chacun d'entre nous a un problème avec la science. Soit parce qu'il ne la comprend pas, soit parce qu'elle lui fait peur, soit parce qu'il a des mauvais souvenirs de collège, soit parce qu'il entend dire des choses terrifiantes qui mettent en jeu la science ou ses applications, comme je l'ai dit. Bref, chacun a un petit problème avec la science. C'est pas le même pour tout le monde, mais chacun a un problème avec la science. Et d'ailleurs, c'est tellement évident qu'on a créé aujourd'hui l'expression « science et société » pour désigner ce problème, le problème des relations science-société. Et ce problème très vague, très diffus, difficile à définir précisément, moi je le perçois depuis très longtemps. Et je n'arrivais pas à l'analyser de façon très fine. Et un soir de 2005, par les hasards de la vie, j'ai rencontré à un dîner, organisé par une amie anthropologue, des chefs indiens. Des chefs indiens Kayapo. Hein. Kayapo, c'est un peuple d'Amazonie qui vit donc dans une partie reculée du Brésil. Et ils étaient venus en France pour défendre leur cause auprès de l'UNESCO à l'occasion d'un colloque, parce qu'ils sont menacés par des projets de barrage, par une forme de colonisation qui finit par les atteindre et qui les inquiète beaucoup. Et j'ai pu discuter avec eux pendant de longues heures grâce à une interprète. Et je me suis rendu compte que certains des arguments de mes étudiants ou du public assez critique à l'égard de la science, c'était exactement ceux de ces Indiens. Autrement dit, vis-à-vis de la technoscience, du développement, les Indiens et les étudiants d'ici ont des arguments assez proches. Crainte du progrès technique, des effets qu'il va avoir, etc. Et puis, contrairement à ce que je croyais, ces Indiens sont des gens avec lesquels il est extrêmement facile de discuter. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment une barrière culturelle. En fait, non, pas du tout. On parle tout à fait facilement. Simplement, eux n'ont pas du tout une conception de la nature analogue à la nôtre. Parce que nous sommes les héritiers de Galilée. Nous, les scientifiques, mais plus généralement, la civilisation occidentale est très largement héritière de Galilée. Que dit Galilée ? Que le langage de la nature, ce sont les mathématiques. C'est grâce à cette phrase qu'il n'a pas lui-même vraiment exploitée, puisqu'il n'est le père d'aucune théorie physique mathématisée, en tout cas, que la science va devenir puissante. Elle écrit des équations qui traduisent en langage mathématique les lois de la nature, connaissant ces lois, Descartes aidant, nous devenons maîtres et possesseurs de la nature, etc., etc. Or, les Indiens n'ont pas fait cette séparation que nous avons faite en Occident entre la nature et la culture. Pour nous, la nature, c'est quelque chose de clos sur lui-même. La nature est régie par des lois abstraites. Et nous sommes, nous, êtres humains, des êtres d'antinature. Nous sommes en dehors de la nature. Non pas que nous soyons contre elle, mais nous sommes spectateurs d'une entité à laquelle nous ne participons pas vraiment. Alors que pour les Indiens, l'humanité déborde complètement le registre de l'humain. L'humanité, c'est les hommes, certes, mais aussi l'air qu'on respire, le gibier qu'on chasse, les étoiles qu'on observe, etc. Il n'y a pas cette séparation.
Oui, il y a eu en quelque sorte une dissociation entre l'homme et son milieu.
Et son environnement. Et donc on pourrait dire, de façon paradoxale, oui, que la physique galiléenne, qui est mathématisée, nous a rapprochés de la nature. Puisque grâce à elle, nous avons pu découvrir l'atome, que l'univers est une histoire. On s'est même raconté cette histoire de 13,7 milliards d'années. On est même capable, on a été capable au XXe siècle, de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. grâce à des arguments mathématiques. On peut penser à l'antimatière, on peut penser au quark, on peut penser au boson intermédiaire, on peut penser au boson de Higgs, cette particule qu'on espère découvrir dans les années qui viennent à Genève grâce au LHC qui vient de démarrer, etc. Donc ce langage mathématique en physique nous a donné une efficacité tout à fait extraordinaire. Mais en même temps qu'il nous a rapprochés de la nature, ce langage mathématique, il nous a éloignés de l'environnement. Parce qu'on n'a pas compris, en tout cas on a mis du temps à comprendre, que cette nature abstraite, en réalité, elle est réactive, elle est fragile, elle est poreuse, elle réagit à nos attaques, et l'environnement a subi des dégâts qui viennent de l'efficacité cognitive qu'a occasionné cette coupure galiléenne. Et donc tout le défi auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est comment faire pour ne pas jeter le bébé scientifique avec l'eau du bain écologique. C'est-à-dire comment continuer à croire aux vérités scientifiques, entre guillemets, que nous avons pu obtenir grâce à la coupure galiléenne, tout en repensant notre lien à la nature pour qu'il soit durable et moins destructeur.
Alors précisément, vous posez la question, Galilée nous aurait-il égarés ?
Alors, ce n'est pas moi qui la pose, c'est en fait Husserl qui pose cette question dans une fameuse conférence qu'il a donnée à Prague en 1934, conférence qui a été publiée sous le titre « La crise de l'humanité européenne », et dans laquelle, finalement, Husserl s'interroge sur la portée du geste galiléen. Évidemment, il ne remet pas en cause que le fait que Galilée est un génie absolu, oui, etc. Il ne remet pas en cause les vérités scientifiques, oui, démontrées par Galilée. Simplement, il s'interroge sur la portée métaphysique et philosophique de ce geste. Parce que finalement, ce que fait Galilée, c'est qu'il rend la physique puissante en limitant ses ambitions. C'est-à-dire qu'il dit, moi je ne vais pas m'intéresser à toutes les questions qui traversent l'esprit humain, c'est trop compliqué. Je vais m'intéresser à certaines questions très particulières qu'une démarche, qui est celle que je propose, c'est-à-dire une démarche à la fois théorique et expérimentale, va permettre d'étayer. Donc parmi toutes les questions possibles, je choisis celle que ma démarche va pouvoir saisir et peut-être même trancher. Donc on limite les ambitions de la science et en les limitant, on la rend efficace. Mais du coup, on fabrique une science qui ne répond qu'aux questions scientifiques.
Et du comment.
Du comment, en gros. C'est-à-dire
et non
pas
du pourquoi.
Qui délaisse la question du pourquoi, qui délaisse la question des valeurs et qui délaisse surtout la question du sens. Et je pense que l'illusion scientiste, qui a surtout été promue à la fin du XIXe siècle, c'était l'idée que la science étant devenue très efficace, elle allait pouvoir répondre à toutes les questions, y compris aux questions non scientifiques. Souvenez-vous des textes de Renan qui dit que la science va pouvoir éclairer les valeurs et même répondre à nos questions d'ordre moral. Bon, le fait est que ça ne marche pas. La connaissance de ce qui est n'éclaire pas la question de ce qui doit être. Il y a une séparation entre les faits et les valeurs. C'est ce qu'on appelle la règle de Hume. Moi, je pense qu'il faut l'accepter, cette règle, tout en la nuançant. C'est-à-dire, je ne crois pas que ce soit une séparation absolument étanche. Et à force de dire qu'elle est étanche, on aboutit à des situations qui sont problématiques. Je pense à la campagne aux élections américaines, où chez les conservateurs, on entendait des gens dire « Nos valeurs américaines sont tellement transcendantales qu'aucune connaissance objective venant de la science n'est capable de les malmener. » Donc on néglige l'effet de serre et le réchauffement climatique, on devient créationniste parce que ça conforte nos valeurs qui, sans ce dogme, seraient abîmées ou relativisées. Donc je pense qu'il faut considérer que certes, il y a le domaine des faits, il y a le domaine des valeurs, ils sont séparés, mais ils se causent quand même. Il y a des contacts qui se voient très simplement par le fait que quelqu'un qui sait qu'il appartient en tant qu'être humain à un univers qui a au moins 13,7 milliards d'années, dans lequel l'homme n'est apparu qu'il n'y a que 2 millions d'années, cette personne ne se pense pas dans le monde comme une autre personne qui pense que l'univers n'a que 6 000 ans et que l'homme y est apparu tel qu'il est aujourd'hui.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois Étienne Klein, auteur du livre « Galilée et les Indiens », un ouvrage paru aux éditions Flammarion. Nous nous retrouvons dans un instant.
Les sculptures de Brigitte Terzieff entrent à l'Académie des Beaux-Arts. Des figures immenses, impressionnantes, spectrales, modelées dans le grès et percées de fer. nous avons rencontré Brigitte Terzieff dans son atelier à Paris. Une rencontre avec une femme sincère, inspirée par la danse moderne et l'art africain. Cette émission est à écouter sur canalacademy.com.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Étienne Klein, auteur du livre « Galilée et les Indiens », un ouvrage paru dans la collection Café Voltaire des éditions Flammarion. Alors nous tentons avec vous, Étienne Klein, de saisir cette crise de la science et de la comprendre. Nous avons laissé les auditeurs sur l'idée que la science expliquait le comment, mais elle ne donnait pas le pourquoi, elle ne donnait pas le sens. Et en fait, en lisant votre ouvrage, j'ai pensé personnellement à deux choses, d'autant plus en cette période anniversaire, à l'encyclique de Jean-Paul II, Foi et raison, Fides et ratio, et sauf erreur de ma part, cette encyclique est sortie il y a une dizaine d'années. Donc nous venons d'en fêter les 10 ans. Et en fait, votre ton, vous ne citez pas le religieux, vous devez citer une ou deux fois le nom de Dieu, et pour dire que l'homme ne peut remplacer Dieu, notamment, je crois, à l'égard d'Hawking, qui explique qu'un jour, l'homme pourra devenir l'égal d'un Dieu. Alors, il le dit un peu sur un ton léger, mais il le dit tout de même. Et en fait, votre discours dans votre ouvrage rejoint un peu, au fond, le discours que l'on retrouve dans Fides et Ratio, ou bien même dans certains textes de Benoît XVI.
Je vois bien là où vous voulez me mener. Effectivement, à partir du moment où la science n'éclaire pas vraiment la question du sens, on peut se demander comment allons-nous trancher la question du sens. Parce que finalement, l'universel que la science exhibe, et je prétends que la science exhibe de l'universel, au sens où, dès lors qu'il est question de particules, d'atomes ou de cosmologie, c'est vers le scientifique qu'il faut se tourner pour avoir un discours pertinent, plutôt que vers d'autres démarches de connaissance. Donc la science est capable d'exhiber de l'universel, elle a acquis, par son histoire, le monopole de certaines questions qu'elle est seule capable de traiter. Mais cet universel, il est incomplet. Il est incomplet puisqu'il ne répond qu'aux questions qui sont dans son domaine, qui sont de son ordre, et laisse en jachère les autres questions.
La science, ce trésor d'incomplétude.
Voilà, ouais. Exactement. C'est un trésor d'incomplétude. Alors les deux mots sont révélateurs. C'est un trésor, c'est-à-dire que la démarche scientifique, ce n'est pas une démarche comme les autres. Et les résultats qu'elle produit, elle est seule à pouvoir les produire, ils ne sont pas atteignables par d'autres démarches de connaissance. Donc, première chose. Deuxième, donc c'est un trésor. Et il est incomplet, c'est-à-dire il ne faut pas attendre de lui qu'il réponde à l'ensemble des questions que nous nous posons. Alors comment on fait pour répondre aux questions qui nous intéressent le plus et qui précisément ne sont pas les questions scientifiques? Les questions scientifiques ne nous intéressent pas vraiment, il faut dire la vérité. Pourquoi est-ce que les particules ont acquis une masse? On s'en fiche. Pourquoi est-ce que l'antimatière a disparu au profit de la seule matière dans l'univers primordial? On s'en fiche. Est-ce que l'univers a 13,7 milliards d'années ou bien 13,8? On s'en fiche. Or pourtant, ce sont précisément ces questions-là, dont la plupart des gens se fichent, qui passionnent certains scientifiques qui y consacrent leur vie. Mais en gros, moi je dirais que dans la culture contemporaine, les questions scientifiques fondamentales ont très peu d'écho et ne suscitent que très peu d'intérêt. Les questions qui nous passionnent, ce sont les questions d'ordre politique, comment vivre ensemble, comment fonder l'idée de justice, comment penser la liberté, pourquoi se tenir droit, au nom de quoi le faire. Ce n'est pas la science qui va répondre à ces questions. Et donc, une solution, c'est de se tourner vers la religion, qui va donc donner du sens à tout ça. Et on pourrait dire, finalement, la science s'occupe du comment, et puis la religion du pourquoi. Mais à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à mon avis, la séparation entre les faits et les valeurs n'est pas complètement étanche, on ne peut pas en rester à cette division caricaturale du travail. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre la science de côté et la relativiser. Il faut entendre ce qu'elle nous dit de plus fondamental et à partir de là, penser avec d'autres moyens la question du sens. Et chacun le fera comme il le peut. Mais il ne faut pas que des réponses qui éclairent de façon très radicale la question du sens viennent relativiser les savoirs que la science nous a permis d'obtenir. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, donc, parfaitement.
La difficulté, c'est d'essayer de penser le sens en intégrant la connaissance. Et non pas de faire en sorte que le sens serait une question tellement fondamentale, tellement à part, que finalement, on pourrait la discuter sans jamais regarder du côté de la science. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe. Moi, je trouve que beaucoup de gens discutent de la question du sens en termes purement philosophiques, sans jamais y injecter des connaissances scientifiques.
Mais alors, justement, toujours par rapport à la religion, on sait ce qui a opposé le religieux au scientisme du 19e siècle. Enfin, en lisant votre ouvrage, j'ai mis dans la marge, le scientisme est-il mort ? À la suite de votre constat. Puisque tout à l'heure, quand même, vous utilisiez des mots, j'allais dire, qui tendaient à montrer que ce scientisme était mis à mal et que, notamment à la suite de la rencontre de ces Indiens, ce dogmatisme qui a longtemps dominé la science, on en est en quelque sorte sorti. Est-ce que le scientifique fait preuve de davantage d'humilité ?
Bon, c'est
tout en disant, que vous êtes profondément humble et votre démarche est, est d'une humilité extrême.
Je pense qu'il existe encore des scientistes.
Oui.
Mais je ne pense pas que le scientisme soit un courant culturel dominant sous nos contrées.
Aujourd'hui.
Il a pu l'être, il ne l'est plus. Les jeunes générations, les étudiants, pour dire les choses simplement, ne sont pas scientistes, sauf exception. C'est-à-dire, ils ne pensent pas que la science va pouvoir régler tous les problèmes de l'humanité. Par exemple, la famine, qui existe encore, n'est pas un problème scientifique. Et pourtant, nous n'arrivons pas à résoudre ce problème. C'est-à-dire que ce problème est un problème politique, un problème d'organisation, un problème de solidarité. Or, ça serait être très malhonnête intellectuellement que de considérer qu'un jour, on va trouver une solution scientifique au problème de la famine. Donc, il existe des scientistes, mais je pense que le scientisme en tant que courant dominant a fait long feu. Même si, de temps en temps, on voit ressurgir le mythe de Dédale, c'est-à-dire des gens qui pensent que les problèmes que nous pose la technologie seront résolus par l'invention de davantage de technologies. Je pense que ça, c'est un courant qu'on trouve chez certains ingénieurs, mais qui, là encore, est loin d'être dominant. Mais vous avez raison, il y a des scientifiques. J'entendais l'autre jour à la télévision une éminente scientifique dire que l'avenir de l'humanité, c'était la science. D'ailleurs, je n'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait dire. Est-ce que ça veut dire que tous les citoyens de l'humanité vont devenir des scientifiques ? Est-ce que ça veut dire que sans la science, l'humanité est perdue, condamnée ? Ou est-ce que ça veut dire que la science va finir par gagner les esprits de plus en plus, s'imposer par le biais de la technologie dans la société de plus en plus ? Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Mais ça, c'est quand même une phrase qui, en gros, est scientiste. Et je ne crois pas, d'ailleurs j'ai vu les réactions des auditeurs sur le site web de la chaîne de télévision en question qui s'étonnaient qu'on puisse dire de telles choses aujourd'hui. Donc je pense que peu de gens sont prêts à suivre ce genre d'argument qui, il y a un siècle, serait passé comme une lettre à la poste.
Alors vous citiez tout à l'heure, vous parliez des étudiants. Vous voulez, à travers ce livre, bien évidemment, sauver la science, mettre en avant...
L'esprit de la science.
L'esprit de la science.
Pas forcément la science telle qu'on la pratique.
Et alors, vous racontez une anecdote, qui est une anecdote extraordinaire, qui a d'ailleurs fait l'objet de l'entrée en matière de l'article qui est paru dans Le Monde des Livres, si je ne m'abuse. Vous racontez une anecdote, puisqu'un des problèmes de la science aujourd'hui, c'est qu'on tombe dans un certain relativisme. Et là finalement, même s'il ne s'agit pas du même relativisme, on rejoint un peu la question religieuse. Mmh. Racontez pour nos auditeurs cette anecdote qui concerne donc un étudiant.
Oui, c'était lors d'un cours que je donnais à l'école centrale sur la relativité. Alors, pas le relativisme, sur la théorie de la relativité d'Einstein, je précise. Un calcul très classique, c'est-à-dire qui montre que quand on change de référentiel, la durée d'un phénomène est dilatée si la vitesse de l'observateur est grande par rapport au phénomène qu'on mesure. C'est-à-dire la durée d'un phénomène dépend de la vitesse de l'observateur par rapport au référentiel fixe dans lequel se déroule ce phénomène. Bon, calcul très classique. Et un élève se lève, m'interrompt et me dit « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein. » Parce que le calcul a été fait par Einstein en 1905. Je lui donne la parole et il m'explique qu'il n'y croit pas parce qu'il ne sent pas cette dilatation. Autrement dit, ce phénomène physique, il ne l'éprouve pas dans son corps et donc il le rejette comme étant non scientifique. Et donc c'était la première fois que j'avais affaire à un étudiant en science, c'est pas un philosophe, c'est un étudiant en science, qui met en avant sa subjectivité personnelle pour contester ce qu'un siècle d'expérimentations diverses et de tests successifs ont permis d'objectiver. La relativité, c'est une théorie qui n'a été prise en défaut dans aucune expérience. Donc je ne dis pas qu'elle est vraie, mais je dis qu'on ne peut pas comme ça la contester d'un revers de main au motif qu'elle n'est pas perceptible dans la vie de tous les jours grâce au sens que nous avons. Et donc, j'ai pris conscience que le relativisme entrait chez les étudiants.
C'était en quelle année ?
C'était il y a 5 ans, donc c'est tout récent. Et en discutant avec eux, on voit bien qu'ils sont de plus en plus convaincus, et d'ailleurs tout le monde autour d'eux leur raconte la même chose, que la science est une sorte de récit. Récit comme il y a d'autres récits produits par d'autres démarches de connaissance, et que la science a gagné parce qu'elle a fait preuve d'autorité, parce qu'elle avait des arguments et un soutien politique ou autre plus fort, et qu'elle s'est imposée par le seul fait de son autorité, et non pas parce qu'elle a un rapport plus fécond ou plus direct avec la vérité. Et donc, ça me paraît assez inquiétant parce que, comme vous l'avez dit vous-même dans votre question initiale, nous sommes dans une situation très ambivalente à l'égard de la science. Nous en avons peur et nous pensons qu'elle va nous sauver. Nous en attendons le salut et nous craignons qu'elle nous amène l'apocalypse. Les deux choses cohabitent. Et dans la société, il y a cette cohabitation entre le scientisme, la science est la seule démarche de connaissance possible, tout le reste est fantaisie, et puis le relativisme qui est la science est une démarche de connaissance comme il y en a d'autres, qu'elle a refoulée, relativisée, bafouée, alors qu'elles avaient aussi des choses intéressantes à nous dire. On pourrait d'ailleurs éclairer cette question avec l'exemple des Indiens. Les Indiens ne connaissent pas la science, pas notre science en tout cas, mais ils ont peut-être des choses à nous apprendre sur la gestion d'une forêt, par exemple. Bon, mais simplement, je pense que le relativisme est un produit naturel du scientisme. C'est-à-dire le scientisme, en nous promettant que la science va résoudre tous nos problèmes, répondre à toutes nos questions, par ses excès, par ses outrances, si on peut dire, le scientisme a produit de la déception. Forcément, ce n'est pas la science qui a déçu, c'est ce qu'on a dit à propos de la science qui a engendré des déceptions. Et la déception étant là, il y a évidemment un retour de bâton, il y a une critique de la science qui s'appelle le relativisme et qui, à mon avis, n'est qu'au début de son essor prochain.
Donc nous ouvrons ce 21e siècle sur du scepticisme et sur une crise de subjectivisme.
Oui, moi je pense que voilà, il faut remettre la science à sa place, mais considérer que dans son domaine, je pense surtout à la physique, quand je parle de science, je m'en excuse, c'est lié à mon métier, mais quand je vois ce que la physique a saisi au XXe siècle, il y a un siècle, on ne connaissait pas l'atome, on n'était pas sûr de son existence. Aujourd'hui, on connaît des particules qui sont 1 milliard de fois plus petites que l'atome, et on comprend les forces qui les lient, leur comportement, etc. Il y a quand même là quelque chose qui montre que la physique et les mathématiques qui vont avec agissent comme un véritable treuil ontologique, c'est-à-dire on est capable de prédire l'existence d'objets absolument incroyables, trous noirs, particules, etc. Donc il y a là quelque chose qu'on ne peut pas négliger et qu'on ne peut même pas relativiser. Encore une fois, je ne dis pas que la physique dit le vrai. Je dis que ce qu'elle dit, elle peut l'argumenter, et ce qu'elle dit, personne d'autre avant elle ne l'avait dit. Et donne, ça donne à ses résultats, à sa démarche, à ses conquêtes, une valeur qui est considérable et qu'on ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, balayer d'un revers de main. En même temps, il faut considérer que la physique ne dit pas tout. C'est pour ça que j'ai gratigné Hodgkin qui, dans un texte célèbre, laissait entendre que bientôt nous aurions une théorie complète de l'univers et que la connaissant, nous pourrions connaître la pensée de Dieu. Je pense que ça, c'est quand même du bluff, et qu'on ne connaîtra jamais par la physique la pensée de Dieu. D'ailleurs, c'est toute une question théologique de savoir si Dieu pense. Et donc, cette façon de dire les choses, de créer des vulgates et une sorte de publicité un peu outrancière sur les prouesses de la physique me paraît contre-productive. Et je pense qu'il faut rester modeste, mais en même temps sûr de soi pour ce qui est de la pertinence des résultats qu'on avance. Et ceci étant posé, se poser lucidement la question du sens.
Je reçois Étienne Klein, auteur du livre Galilée et les Indiens, paru dans la collection Flammarion. Nous nous retrouvons dans un instant.
Retrouvez sur Canal Académie nos émissions en compagnie des académiciens professeurs au Collège de France, le paléontologue Yves Coppens la juriste Mireille Delmas-Marty, l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie ou encore l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Quelques noms d'une longue liste dont vous pouvez télécharger librement les émissions sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la science. Je reçois Étienne Klein, qui est actuellement directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA. Vous êtes toujours aussi professeur de philosophie des sciences. Donc vous venez de publier « Galilée et les Indiens » paru aux éditions Flammarion. Alors, je voudrais terminer cette émission, puisque nous entamons la dernière partie de cette émission, sur la question de la démocratie. Vous avez, tout à l'heure, nous citions Hawking, nous parlions d'Hawking, la provocation en quelque sorte d'Hawking, et chez Hawking, il y a cette idée qu'à un moment, tout le monde, au fond, pourra accéder et connaître la clé de tous les savoirs. Mais est-ce que, quitte à paraître un peu provocateur, est-ce que justement, il ne va pas dans le sens de la démocratie en affirmant une telle chose ?
Bon, alors, on pourra discuter de la portée démocratique ou non démocratique de cette assertion d'Hawking qui dit que bientôt, le philosophe, le physicien et l'homme de la rue pourront se retrouver au café pour discuter ensemble de la vérité du monde et du pourquoi il est tel qu'il est. Simplement, moi, je crois que malgré Internet, malgré les encyclopédies qui circulent, malgré les émissions scientifiques à la télévision, malgré les livres qui s'écrivent, l'enseignement qui est de plus en plus scientifique dans les lycées, etc., nous fabriquons beaucoup plus une société de l'usage des technologies qu'une société de la connaissance. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que nous utilisons quotidiennement des appareils téléphone portable ou autre, qui requiert dans leur fonctionnement beaucoup de physique, beaucoup de technologie aussi, mais aussi beaucoup de concepts de physique, que l'usage de ces outils nous rapproche des principes qui les rendent possibles. Mes enfants sont très à l'aise en matière de jeux vidéo, de téléphone portable, etc., beaucoup plus que moi, mais ils seraient incapables de vous dire comment ça marche. Et nous sommes tous dans cette situation. Personne n'est capable de dire comment un objet comme ce téléphone que je tiens dans ma main peut être capable de me permettre de consulter Internet, de prendre des photos. Quelle est la médiation ? C'est des ondes électromagnétiques, elles sont médiées par quoi ? Est-ce qu'il faut un satellite ? Personne n'en sait rien. Et donc nous avons un rapport magique avec ces objets. C'est-à-dire que le fait de les maîtriser, de les posséder, de les utiliser, ne nous rapproche pas des connaissances qui les rendent possibles.
Nous sommes dans l'utilitarisme ?
Nous sommes dans un usage des technologies ivre de lui-même et je crains que, paradoxalement, la technologie nous éloigne de la science. C'est-à-dire que finalement, l'efficacité de la science se retourne en partie contre elle-même, au sens où elle nous donne des possibilités, des potentialités techniques de plus en plus grandes et nous nous empressons de les explorer toutes, de les concrétiser toutes. Et c'est leur usage qui monopolise notre attention et notre temps. Alors ensuite, on se dit que finalement, il y a une sorte d'autonomie de la technologie par rapport à la science. Et dans le livre, j'égratigne un petit peu les grandes écoles qui forment des ingénieurs, en se contentant de leur enseigner la physique du 19e siècle, c'est-à-dire la mécanique, la thermodynamique, l'optique, l'électromagnétisme. Or, les innovations du futur, elles viennent des révolutions de la physique du 20e siècle. Je veux dire la physique quantique et la relativité qui sont très peu enseignées. Donc, il y a cette espèce de paradoxe selon lequel l'innovation est confiée à des gens qui ont des connaissances qui datent de plus d'un siècle, alors qu'au 20e, se sont produites les révolutions les plus importantes dans les questions de théorie de la matière, connaissance de la structure de l'atome, etc. Et donc, si on fait un sondage dans la rue et qu'on demande aux gens ce que c'est qu'un atome, comment il est structuré, quelles sont ses composantes, etc., on a des réponses qui sont peut-être meilleures qu'il y a 20 ans, j'en sais rien, j'ai pas fait d'études comparatives, mais qui sont très faibles par rapport à ce qu'on pourrait attendre compte tenu de la sophistication technologique dans laquelle nous vivons. Et là, il y a pour moi un mystère. Et un mystère, c'est comment comprendre ce qu'on pourrait appeler l'échec relatif de la vulgarisation. Jamais autant que depuis 10 ou 15 ans, les scientifiques ne sont autant sortis dans la rue. Ils ont donné des conférences, ils ont écrit des livres, ils ont fait des films, ils passent à la télévision, etc. Mais on n'a pas l'impression que ça augmente le niveau scientifique de la population.
Mais alors, c'est ce qui est étonnant, parce que ce que vous expliquez, au fond, ici, sur la science, on pourrait très bien le voir par rapport à l'histoire, qui est plus mon domaine d'activité.
Ou la philosophie.
Mais justement, cet appel à la conscience, en tous les cas, cet appel pour la compétence, est-ce qu'au fond, cela ne prime pas sur la conscience démocratique qui, là encore, je vais paraître provocateur, c'est Taine qui disait « un million de votes n'ont jamais fait un savoir ». Est-ce qu'il n'y a pas une part d'utopie à se dire que la science, tout comme l'histoire, tout comme la connaissance en général, tout le monde ne peut pas être savant, tout le monde ne peut pas être scientifique, comme tout le monde ne sait pas, par exemple, préparer un moteur d'avion ou bien un moteur de voiture.
Vous avez raison, vous posez la question fondamentale. Il ne faut pas avoir une conception scolaire de la démocratie. En disant finalement, on demandera aux gens ce qu'il faut penser du nucléaire, s'il faut en faire ou pas, le jour où ils auront tous un doctorat en physique nucléaire. Ce n'est pas du tout ma conception. Je remarque simplement que le principe fondamental de la démocratie, c'est l'idée que la conscience prime la compétence. Le suffrage universel, c'est ça. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas de connaissances en droit constitutionnel, vous êtes appelé à voter lors d'un référendum sur la Constitution européenne, par exemple, ou pour Maastricht, ou pour autre chose. Autrement dit, même si vous êtes illettré, vous êtes appelé à donner votre avis sur les projets constitutionnels en cours. Bon. Mais il y a un domaine où ce principe de base de la démocratie n'est pas retenu, c'est la technoscience. Pour le nucléaire, pour les OGM, bientôt pour les nanosciences, on n'envisage pas de faire voter les gens. Et on a de bonnes raisons pour ça. C'est des sujets trop compliqués, comme vous dites, et on ne peut pas espérer tous les faire monter au niveau où ils seraient suffisamment informés pour avoir des avis ou participer à des décisions qui soient vraiment éclairées. Autrement dit, on n'espère pas les rendre compétents. Et du coup, on organise d'autres modes de décision. Il y a des experts, ils donnent leur avis, il y a une discussion politique, et puis il y a une décision politique à la fin, qui est plus ou moins contestée, plus ou moins acceptée. Ce n'est pas un système idéal. Autrement dit, on a des problèmes de décision en matière de technosciences. Parce qu'on n'arrive pas à mettre sur pied des modalités de décision qui diraient quelle est la part qui revient à la discussion générale, quelle est la part qui revient à l'avis des experts, et quel poids on lui donne, et quelle est la part qui revient à la décision politique. Et du coup, on le voit, on n'a pas de stratégie unique qui permettrait, lorsqu'une décision est prise selon cette procédure acceptée par tous, eh bien le résultat de la décision est accepté, y compris par ceux qui la contestaient au départ, simplement parce qu'ils reconnaissent que la procédure a été suivie correctement. Simplement, moi, je me pose une question. Est-ce que si on donnait, pour une fois, le primat à la conscience des citoyens sur les sujets technico-scientifiques, est-ce qu'on n'élèverait pas leur niveau de compétence ? Je vous donne un exemple. C'est cet exemple, d'ailleurs, qui m'a fait réfléchir. Il existe à côté de Marcoule. Marcoule, c'est un centre du CEA dans le sud de la France où on s'occupe des déchets nucléaires. À côté de ce centre, ils ont créé une exposition qui s'appelle Visiatome. Les gens entrent et selon leur niveau de connaissance au départ, ils doivent faire leur chemin de recherche dans cette exposition. Et ils essaient de trouver les panneaux ou les indications qui correspondent à leur niveau de connaissance et puis petit à petit, ils l'augmentent. Bon. L'exposition, la visite de l'exposition prend quelques heures et quand ils sortent de l'exposition, sans qu'on les ait prévenus à l'entrée, on leur demande de venir devant un écran d'ordinateur et de répondre aux questions qui ont été posées aux députés en matière de gestion des déchets nucléaires. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on dégage 1 milliard d'euros pour faire de la transmutation des actinides mineures ? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on creuse un puits à tel endroit pour enfouir profondément et pour de très longue durée certains déchets radioactifs, etc. Et ce que j'ai vu, et ça m'a été confirmé par des gens qui gèrent ce musée, c'est que ça, certaines personnes, un certain nombre de personnes, sentant qu'elles n'ont pas les arguments ou les connaissances pour répondre à ces questions, retournent dans l'exposition pour augmenter leurs compétences et enfin pouvoir répondre au questionnaire qui leur est proposé. C'est un questionnaire complètement bidon, hein, c'est complètement fictif, leur voix n'aura aucun poids sur les décisions finales, mais l'appel à la conscience, même symbolique, a des effets sur le niveau de compétence. Et je me demande s'il n'y a pas là quelque chose à creuser, Si on engageait plus, si on demandait plus aux citoyens de dire son mot sur ces questions, est-ce que simplement par honnêteté intellectuelle, je ne veux pas trop idéaliser dans ce domaine, il n'irait pas de lui-même améliorer son niveau de compétence?
Vous expliquez cependant qu'il y a un doute donc sur cette science. Beaucoup pensent que c'est l'apocalypse. Vous écrivez « Certains historiens verront sans doute dans ce phénomène une version laïque des apocalypses religieuses, du millénarisme, pardon. » À vous entendre, vous gardez l'espoir?
Oui, moi je pense qu'on vit une époque très intéressante. Je ne dirais pas qu'elle invite à l'optimisme béat, mais on sent qu'il y a des remises en cause qui se produisent en ce moment, et la crise financière, finalement, éclaire d'autres crises. On a l'impression de tout un système en crise. Crise écologique, crise énergétique, crise financière, crise économique, peut-être crise sociale. Et c'est l'occasion de repenser certaines choses. C'est l'occasion de réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire comme monde commun. J'espère que ce n'est pas un monde dans lequel la science sera absente. Autrement dit, j'espère que la science moderne n'est pas une parenthèse dans l'histoire. J'espère simplement que nous allons modifier notre relation à l'environnement. Parce que finalement, il y a une chose que Galilée et ses successeurs n'avaient pas pensé, et en tout cas pas prévu, c'est le fait que nous allions dépendre de choses qui dépendent de nous. C'est-à-dire que la nature était, comme je disais tout à l'heure, considérée comme infinie, close sur elle-même, on peut pomper dedans à volonté sans qu'il y ait de dégâts manifestes. Et on voit bien que ce n'est pas vrai, que l'activité humaine change, non pas la nature, mais l'environnement, qu'il y a des boucles de rétroaction positives qui s'installent, et que nous allons dépendre de choses qui dépendent de nous. C'est à la fois une mauvaise nouvelle, parce que du coup, nous ne sommes pas complètement à l'abri de modifications dramatiques de l'environnement, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, nous allons devoir réfléchir aux conséquences qu'auront sur nous nos actions. Et tout ce qui se fait aujourd'hui autour du réchauffement climatique me semble être un bon exemple de ce qui nous attend, y compris dans d'autres domaines, comme celui de la biodiversité, des ressources énergétiques, etc. Autrement dit, nous avons la capacité d'être intelligents et de vraiment réfléchir à ce que nous sommes en train de faire. Et j'espère que nous saurons la saisir.
Alors, il y a une personne qui modifie ou qui nous incite à modifier notre relation à l'environnement, c'est Claire Nouvian. Vous lui avez dédicacé cet ouvrage?
Oui, c'est une très bonne amie et je lui ai dédicacé parce que c'est elle qui m'a ouvert les yeux sur justement ces boucles de rétroaction en me parlant des problèmes qui lui sont chers, les problèmes de la surpêche. Et elle m'a fait comprendre l'effet que peuvent avoir certaines non-linéarités dans les comportements dynamiques des populations. Et le non-linéaire, voilà un sujet très vaste que les pères fondateurs de la mécanique, Galilée et Newton, n'avaient pas vraiment envisagé. Quand vous remplissez votre verre d'eau, tout va bien, jusqu'au moment où ça déborde. Il y a là une non-linéarité. C'est ce genre de phénomène qui nous menace et qu'il faut mieux comprendre.
Merci à vous, Étienne Pierre. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Galilée et les Indiens, paru aux éditions Flammarion, et je renvoie nos auditeurs à l'émission enregistrée également avec Claire Nouvian sur les abysses. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'éclairage.